Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. L'information est souvent grave, dramatique, mais elle peut rester légère de temps en temps.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, la gare de l'Est paralysée par un incendie volontaire sur des câbles. Pas de train au départ ni à l'arrivée. Grosse galère pour les passagers. La SNCF a porté plainte. Nous serons sur place dans ce journal. La colère des Français contre la réforme des retraites ne retombe pas. 68% d'entre eux soutiennent même le mouvement social, d'après notre baromètre BVA. Désormais, ce sont les personnels des remontées mécaniques qui appellent à la grève. Le conflit s'invite jusque sur les sommets. Est-ce que cela fera boule de neige? On y reviendra longuement à 12h40. À suivre aussi, ils étaient retenus dans des camps en Syrie. Nouveau rapatriement de proches de djihadistes aujourd'hui. La fin du rêve pour l'USPI Cassel, battu 7-0 par le PSG. Et puis on parlera oiseaux dans un petit quart d'heure. 10 ans que vous les observez, les comptez dans vos jardins. Alain Bougrain-Dubourg viendra nous révéler les résultats de cette décennie d'observation citoyenne. Vous ne voyez plus de mésanges, de martinets noirs au printemps. Vous n'êtes pas les seuls.
RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour Marseille, où les habitants de plusieurs cités HLM manifestent contre leurs factures de chauffage qui s'envolent. À midi 20, RTL Midi, votre vie, là encore, on va parler énergie avec MaPrimeRénov' ou comment réhabiliter votre logement intelligemment. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, la suite de la journée spéciale Astérix et Obélix sur RTL. Stéphane Boutsock viendra nous parler du plus gros film français de l'année. Et puis, c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Allez-vous tous les mois au cinéma?
Autant de sujet évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Vous l'avez entendu sur l'antenne, le sexisme perdure en France. C'est ce que déplore un rapport du Haut Conseil à l'égalité. On pourra en parler dans à peu près une heure.
Avant ça, la météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Encore bien gris sur une bonne moitié nord et froid.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Pas de train au départ ni à l'arrivée. Le trafic est interrompu toute la journée. Gare de l'Est à Paris après un acte de malveillance. Un incendie volontaire sur des câbles électriques, Arnaud Touche.
Oui, une cinquantaine de câbles incendiés, ce qui a mis hors service un poste d'aiguillage à Vers-sur-Marne. C'est en Seine-et-Marne. L'incendie a été déclenché vers 1h10 du matin et c'est un agent SNCF qui a prévenu la police. Ces câbles, ils sont essentiels car ils transmettent des informations au poste d'aiguillage. Conséquence, le trafic a été totalement interrompu. Et devant l'ampleur des dégâts, la SNCF a annoncé tout à l'heure que la journée serait nécessaire pour réparer et remettre en service le trafic ferroviaire. Par ailleurs, un portillon d'accès aux voies de la SNCF a été ouvert sans aucune trace d'effraction, explique le procureur de la République de Meaux ce midi. Il s'agit clairement d'un acte de malveillance. Il est aujourd'hui trop tôt, bien sûr, pour savoir qui en est l'auteur, mais la compagnie ferroviaire a d'ores et déjà porté plainte dans la matinée. Alors, des actes de malveillance, ils ont lieu régulièrement sur le réseau, mais ils entraînent rarement la paralysie complète d'une gare. Pour rappel, la gare de l'Est, c'est tout de même 75 000 passagers chaque jour qui partent vers Francfort, Strasbourg, Metz, Luxembourg, mais aussi vers Meaux et Château-Thierry.
Merci Arnaud Touche. Alexandre de Saint-Aignan, vous êtes-vous gare de l'Est à Paris pour RTL, où les voyageurs ont d'abord cru que le trafic pourrait être rétabli en milieu de matinée avant que la mauvaise nouvelle ne tombe.
Oui, des passagers qui étaient très nombreux à patienter devant le tableau d'affichage, valise au pied. Finalement, aucune reprise du trafic n'est donc prévue de toute la journée en gare de l'Est. Patrick, lui, devait se rendre à Reims ce matin.
Moi, je viens de recevoir un SMS d'annulation et avec une proposition d'échange. Je viens de finir ma réservation et je vais rentrer chez moi. Je reprendrai le train demain.
Et juste à côté, Henri et sa femme Michel n'ont aucune solution. Pour l'instant, ils avaient prévu de rentrer ce midi à Nancy, mais ils vont devoir trouver un plan B.
Il faut trouver une chambre jusqu'à demain matin.
Non, mais je vais téléphoner à Nicole.
Il va falloir quand même que je me renseigne pour la validité des billets.
Vous avez essayé de vous renseigner un petit peu auprès de la SNCF ?
Non, parce qu'on vient juste d'arriver. Donc,
on était à l'hôtel dans Paris.
Peut-être que la SNCF va nous coucher. S'il y a des wagons de libre.
Alors pour l'instant des wagons ici, les passagers n'en voient pas la couleur. Les seuls à s'agiter ce sont les gilets rouges, le personnel de la SNCF qui tente de venir en aide aux voyageurs désormais beaucoup moins nombreux. Un contraste saisissant puisqu'en temps normal entre les TGV, les TER et le Transilien, ce sont 215 000 usagers qui transitent chaque jour gare de l'Est.
Alexandre de Saint-Aignan à Gare de l'Est à Paris, donc pour RTL. Alors que la cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu en faveur de Gérald Darmanin, accusé de viol, la plaignante Sophie Patterson-Spatz fait savoir qu'elle se pourvoira en cassation. Pour la cinquième fois, la justice affirme qu'aucun acte répréhensible ne peut être reproché à Gérald Darmanin, ont réagi les avocats du ministre de l'Intérieur, qui a reconnu une relation mais consentie.
À une semaine de la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une très large majorité de Français soutiennent le mouvement social.
68% très exactement selon l'Observatoire de la politique nationale BVA réalisé pour RTL. C'est 5% de plus qu'en décembre. Beaucoup jugent cette réforme injuste. C'est le cas de Paul, 50 ans, infirmier. Il n'ira pas manifester mais soutient les grévistes.
On ne peut pas manifester parce qu'on est dans des métiers soignants et qu'on est obligé d'être sur place pour assurer la continuité des soins. Mais en tout cas, on est solidaires avec nos confrères qui manifestent, quelle que soit leur profession. Il faut continuer et persévérer justement pour que cette réforme puisse être abrogée. Et à l'âge et à la pénibilité, c'est sûr qu'on est tous différents face à notre travail. Il faut qu'on puisse arriver à un âge où on peut profiter avec une retraite suffisante pour pouvoir vivre correctement.
Un témoignage recueilli pour RTL par Hugo Hamelin.
RTL Midi.
15 femmes et 32 enfants. La femme a procédé à un nouveau rapatriement de proches de djihadistes retenus jusque-là dans les camps de Syrie.
Illustration de la nouvelle doctrine adoptée par Paris, la fin du cas par cas. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
15 femmes, on le disait, ont été rapatriées cette nuit et immédiatement placées en détention.
Oui, c'est la procédure habituelle. 7 d'entre elles ont même été directement présentées à un juge d'instruction car elles étaient visées par un mandat d'arrêt international. Les enfants, eux, ont été pris en charge par des médecins et des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont été séparés de leur mère dès leur descente d'avion. C'est le 9e rapatriement depuis la chute de l'État islamique en 2019. Au départ, il ne s'agissait de ramener que les enfants malades et les orphelins. Ces derniers mois, la France a finalement accepté de rapatrier des femmes et des mères. Il faut dire que la France a été condamnée ces dernières semaines par la Cour européenne des droits de l'homme et par le Comité contre la torture de l'ONU pour traitements inhumains et dégradants, ce qui explique ce changement de doctrine. Il reste encore environ 150 enfants en Syrie et leur mère. Tous sont retenus dans le camp de Roj, au nord-est du pays, surveillés par les forces kurdes qui demandent à tous les pays étrangers de récupérer leurs ressortissants.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL.
Le score est sévère, mais la soirée fut belle pour l'US Pays de Cassel.
Battu 7-0 par le Paris Saint-Germain hier soir en Coupe de France, les joueurs de Régional 1 ont donc repris le chemin du travail. Ce matin, retour à la vie normale pour les héros d'hier, les Parisiens eux connaissent déjà leurs adversaires pour les huitièmes de finale. Ce sera l'Olympique de Marseille, rencontre prévue début février autour du 8. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi froid et toujours gris. Hein.
Toujours gris sur une bonne moitié nord du pays, en effet il y a beaucoup de grisailles. La grisaille a vraiment du mal à se dissiper, en revanche c'est plus lumineux dans le sud, surtout entre le sud-est et en remontant vers la Franche-Comté. Là on a plus de soleil, même si c'est vrai que sur l'extrême sud-est, entre la Corse et le sud des Alpes, vraiment sur la frontière, hein, et également sur les Pyrénées-Orientales, là le temps est plutôt perturbé avec des averses, de la neige en montagne. Et attention aux averses orageuses sur la Corse, le tout accompagné de vent, et il y a toujours ce risque d'avalanche donc sur les Alpes, soyez prudents. Les températures, elles sont froides même si elles remontent, on est toujours sous les normales, surtout au nord, de 2 à Langres jusqu'à 15 degrés à Nice, ça reste plus doux près de la Méditerranée, 4 à Orléans, 5 à Paris, 6 à Rennes, 7 à Montélimar, 8 à Perpignan, 11 à Bastia et 12 à Marseille.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Comme tous les jours, nous nous baladons en France. Chaque jour, l'info plus près de vous.
Et aujourd'hui, direction Marseille. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour à tous.
Marseille, où les résidents de plusieurs cités HLM manifestent aujourd'hui à cause d'un courrier reçu dans leur boîte aux lettres qui les informe que le prix de leur facture d'électricité sera multiplié par 3 par 3 cet hiver.
Oui, 287% très exactement, c'est inscrit sur le prospectus. C'est évidemment une catastrophe pour tous les locataires présents. Ils viennent de toutes les résidences de Marseille gérées par HMP, Habitat Marseille-Provence, dont la tutelle administrative est la métropole. Écoutez, Nathalie, elle a 57 ans. Au bout de 7 ans, elle avait pu enfin trouver un logement à loyer modéré en décembre dernier.
Au mois de décembre, je signe mon bail, 90 euros de chauffage. Je trouvais que c'était déjà excessif, mais bon, je me suis dit après tout, je vais faire avec. 15 jours après, je reçois une lettre de la HMP me disant que le chauffage augmente de 114 euros. Je paye au total 204 euros de chauffage à l'heure actuelle.
Et le bouclier tarifaire ?
Eh bien, le briquet carifère, d'après ce qu'on m'a dit, il permettait une augmentation de 114 euros. Donc, je pense qu'ils sont allés au summum de l'augmentation. Voilà. Personne ne m'a averti. Le logement me coûte 440 de loyer et de charges, je paie 300 euros, dont 204 euros de chauffage. Je paie bientôt plus de charges que de loyer. Je suis dans une situation catastrophique. Je suis pire qu'avant et je ne sais pas ce que je vais devenir. Voilà.
Voilà, et la détresse des locataires, on l'entend, est bien réelle. Abdelmalek, lui, loue un T4.
J'étais à 76 euros et ils m'ont rajouté 177. Je dois payer 253 sur l'année, 3030 euros. D'un coup, franchement, ce n'est pas que je ne veux pas les payer. Je ne peux pas. Je dois choisir ou la nourriture ou le chauffe.
Mais Étienne, les sociétés HLM ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire ?
Et pourtant oui, elles le sont, hein. C'est bien le pire dans cette histoire. Avec une hausse limitée normalement à 15%, on est très loin des chiffres que l'on vient d'entendre. Alors ce matin, les associations de locataires ont été reçues au siège social contre l'avis du bailleur. Une décision a été prise, Guy Lucchesi de la CLCV, la Confédération du logement et du cadre de vie.
Payer vos loyers, charges comprises, comme en 2022, mais de ne pas appliquer les charges pour 2023.
Et le bouclier tarifaire ?
Mais ils en font... Apparemment, ben, ils ne savent pas comment l'utiliser, hein, puisqu'ils ne l'ont pas appliqué et puisqu'ils ne l'appliquent pas. Mais le bouclier, là, ils ont une échéance, c'est le 1er février. Donc à partir de là, ça risque d'être difficile. Ils sont complètement paumés.
Et les associations qui vont interpeller également les élus locaux, la présidente de la métropole et le préfet, pour débloquer une situation totalement désastreuse.
Merci beaucoup Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
Dans un instant, on va parler oiseaux. Le président de la Ligue de protection des oiseaux vient nous révéler les chiffres de 10 ans d'observation dans nos jardins. Les hirondelles ne font plus le printemps. On sera avec Alain Dugrin Dubourg.
Céline Dugrin. Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Il faut partir. Il est grand temps. Puisqu'il n'y a pas de printemps.
Je pensais que vous auriez mis des petits oiseaux de toutes les couleurs.
Non. Il n'y a pas de printemps sans hirondelles. Non. C'est ce que chantait Gilbert Bécaud.
Chantait aussi le petit oiseau de toutes les couleurs.
Oui, mais c'était moins raccord avec le sujet qu'on va développer, Pascal. Donc j'ai choisi cette chanson-là, L'Hirondelle de 74. Bonjour Alain Beaugrin-Dubourg.
Bonjour.
Les hirondelles qui font partie des oiseaux qu'on voit de moins en moins au printemps dans nos jardins. C'est l'enseignement du comptage des oiseaux des jardins qui fête ses 10 ans cette année. Vous êtes vous le président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et vous venez nous révéler le bilan de ces 10 ans d'observation citoyenne. Ça fait 10 ans que des milliers de Français regardent dans leur jardin les oiseaux qu'ils croisent. La population a évolué en 10 ans. Les hirondelles, on le disait, sont moins là.
Alors d'abord, la population des observateurs a évolué. On était quelques centaines. On est 28 000 le week-end prochain, par exemple, pour faire l'observation des oiseaux en hiver. Ça représente pas loin de 100 000 jardins qui servent d'écran, de cadre à l'observation en question. Et que nous indiquent les chiffres 10 ans après, eh bien que en hiver, on a une augmentation très spectaculaire d'oiseaux, près de 50%, 49% exactement, alors que au printemps, c'est l'effondrement, on a 41% d'oiseaux en déclin. Alors comment se fait-il qu'il y en a plus en hiver qu'en été ? Bien tout simplement parce que les oiseaux nous arrivent des pays froids, du Grand Nord, des pays de l'Est, et viennent se réfugier chez nous. Et par conséquent, on voit qu'il y a des populations assez importantes. Oui.
Mais lesquelles ? Parce que vous dites que les oiseaux arrivent du grand froid, des migrateurs ?
Non, alors il y a par exemple un oiseau qui est maintenant un peu présent un peu partout, c'est la perruche à collier qui est arrivée il y a une vingtaine d'années. On en compte 30 000 aujourd'hui et elle se développe aussi bien à Paris qu'à Marseille, qu'à Toulouse, qu'à Nancy ou ailleurs. Il y a le pigeon biset ou le pigeon ramier, c'est la palombe. Bon, les choucas des tours et quelques autres qui sont assez présents, même le chardonneret. Il est en augmentation très sensible en hiver. En revanche, au printemps, quand on fait les comptages des oiseaux, j'ai envie de dire bien de chez nous, puisqu'il n'y a plus ceux qui viennent nous visiter pour se réfugier, bon, eh bien là, il y a un déclin terrible qu'on explique, évidemment, notamment par une agriculture intensive avec le cortège chimique, par l'artificialisation. C'est plusieurs dizaines de milliers d'hectares d'asphalte et de béton qui rongent et verticalement les façades et horizontalement qui va gagner sur les terres naturelles ou agricoles.
Justement, est-ce qu'il y a des espèces qui ont disparu depuis 10 ans du fait de l'environnement, du fait de l'homme ?
Alors, disparu, non, mais par exemple, je pense à la pigrièche à poitrine rose qu'on trouvait dans l'Hérault et qui aujourd'hui ne nidifie plus depuis 2 ans. Vous avez des espèces extrêmement fragiles comme les aigles de Bonelli. Il ne survit qu'une trentaine de couples en France.
Et il y a des conséquences ?
Ben les conséquences, je ne veux pas, Pascal, qu'il y ait d'un côté les oiseaux utiles et les autres qui ne serviraient à rien. Je crois qu'on est dominant sur cette planète, on a un devoir de solidarité à l'égard des plus faibles. Et puis en plus, il y a un certain intérêt, il y a une enquête qui a été conduite en Angleterre et qui montre que plus il y a de population d'oiseaux, plus ceux qui les observent sont heureux dans la vie. Et pour deux raisons. D'abord, parce que c'est le plaisir du spectacle auquel ils assistent. Et puis ensuite, parce qu'ils vont marcher dans la nature pour observer les oiseaux en question. Donc c'est bénéfique.
Alors justement, vous parliez des observateurs ce week-end, samedi, dimanche. Oui. Ce sera le nouveau week-end d'observation d'hiver dans les jardins. Oui. Vous disiez, il y a déjà 28 000 volontaires. Si on souhaite s'ajouter à la liste, comment ça se passe ? Comment
vous allez sur le site observatoire des oiseaux des jardins, au muséum ou à la LPO. Et vous avez immédiatement la capacité d'identifier les oiseaux. On va dire qu'il y a une trentaine d'espèces assez familières. Vous avez des petites fiches qui vous permettent de les identifier. Et puis vous restez une heure dans votre jardin ou dans un jardin public et vous ne comptez que les oiseaux qui se posent, ceux qui volent au-dessus, vous en occupez pas. Voilà. Et puis vous envoyez vos données. En une heure, j'ai vu 10 mésanges charbonnières, 3 rouges-gorges, un pigeon bisé, que sais-je encore. Vous envoyez ces données. C'est extrêmement utile pour nous, parce qu'une fois qu'on a fait un état des lieux de la biodiversité, eh bien on peut agir en conséquence pour aider les espèces les plus fragiles.
Et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour se lancer.
Même moi, je le fais, vous voyez.
Merci beaucoup.
On rappelle quand même que vous avez écrit le dictionnaire amoureux des oiseaux et que vous êtes un grand spécialiste de tous les animaux et notamment des oiseaux.
Et que les auditeurs d'RTL connaissent bien puisqu'on vous retrouve tous les dimanches soirs à 18h50.
Avec Vincent Parizeau.
Dans On refait la planète. Merci beaucoup et à dimanche soir donc Alain Bougrain-Dubourg, merci.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie. Et de quoi va-t-on parler à l'instant ?
De la prime Rénov, comment réhabiliter son logement intelligemment grâce aux dispositifs qui existent.
A tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
elle a fêté ses 2 ans, début janvier. On va parler de ma prime Rénov. Nous sommes avec Thierry Repentant, président de l'ANA. Bonjour.
Bonjour.
L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. On disait, ma prime Rénov a fêté ses 2 ans. 2 ans, ça veut dire combien de travaux à la clé ?
C'est une montée en puissance, 1,5 million ménages ont bénéficié de cette prime. Sur l'année 2022, par exemple, 3,4 milliards d'euros d'aide publique apportée à des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs pour 9 milliards de travaux.
Ça, ce sont les chiffres. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ma prime Rénov, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle permet de financer, pour être très concret ?
Bien sûr, elle permet de réaliser des travaux dans votre logement, que vous soyez propriétaire bailleur ou occupant, permettant d'améliorer les conditions de vie dans votre logement, avec une priorité aujourd'hui très clairement affichée, c'est la rénovation thermique, pour qu'on soit à la croisée d'un aspect pouvoir d'achat, diminuer la facture énergétique et puis préserver la planète. Et le pari est assez réussi, puisque à l'issue des travaux, chaque Français qui a eu la prime Rénov bénéficie de 800 euros d'économie d'énergie et a économisé par an. Et a économisé environ 3 tonnes de CO2, ce qui est à peu près 3 allers-retours par avion entre Paris et New York.
Ça concerne également les locataires, c'est important de le dire. Ça,
bon. Indirectement, oui, puisqu'ils sont dans des logements qui bénéficient effectivement de ces travaux.
L'idée, c'est effectivement que de faire des économies d'énergie et de dépenser moins dans du chauffage. Est-ce qu'on a un coût moyen de la rénovation sur un appartement ou sur une maison?
Oui, sur une maison, c'est avec une rénovation globale, c'est de l'ordre de 30 000 euros.
Ce qui est beaucoup d'argent.
Ce qui est pas mal d'argent. Et sur...
Non, ce qui est beaucoup d'argent.
Ouais, ce qui est beaucoup d'argent, vous avez raison de le dire, ce qui fait du coup beaucoup de travaux et beaucoup de gains d'énergie. Et sur les logements qui sont en copropriété, on est sur des travaux moins importants avec un travaux subventionnable de l'ordre de 15 000 euros.
Alors, vous avez 30 000, on va prendre l'exemple de 30 000 euros. La prime, vous allez payer, vous allez participer à hauteur de quel niveau ?
À peu près 25%. Mais par ailleurs, il faut rajouter, et ça c'est très important, et mon accompagnateur Rénov, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2023, doit vous accompagner de A à Z, et va pouvoir aussi vous dire qu'il y a d'autres aides mobilisables des collectivités territoriales où vous habitez. Elles sont de nature différente. Parfois, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Parfois, c'est des impôts locaux que vous payerez moins parce que vous avez fait ces travaux. Et puis, vous pourrez aussi mobiliser les certificats d'économie et d'énergie à travers les entreprises qui travaillent dans votre logement.
On y vient. Les entreprises, c'est l'autre volet économique de MaPrimeRénov'. Ce sont ces emplois, en tout cas, c'est ce que vous mettez en avant, qui sont créés ou préservés. En quoi MaPrimeRénov' permet ça ?
Ben, très concrètement, ça alimente grandement le carnet de commandes de la filière des artisans en France, hein, puisqu'avec ces 3,4 milliards d'aides publiques, c'est à peu près 10 milliards de travaux, c'est à peu près 110 000 emplois maintenus ou créés, en sachant que nous obligeons pour la qualité des travaux à choisir des entreprises qui sont labellisées pour être sûr que le savoir-faire est bien là pour les travaux qui sont nécessaires. Donc ce sont des entreprises labellisées RGE.
Vous citiez tout à l'heure, et je reprends l'exemple de 30 000 euros d'investissement pour une maison. Vous allez donc participer à hauteur de 7 500 euros. C'est-à-dire que je vais débourser 22 500 euros. Et vous m'avez dit que je gagnais 800 euros par an. Je vais mettre 30 ans pour amortir ça.
Alors, évidemment, vous pouvez faire ce calcul qui est purement économique, mais le but aussi...
C'est le confort.
Pardon ?
C'est le confort aussi.
C'est le confort, effectivement, qui est complètement différent après les travaux. Et c'est de participer à cette grande cause nationale, de faire qu'on va moins chercher d'énergie fossile, notamment. Et donc, c'est l'œuvre collective, je pense, de la nation à diminuer, effectivement, le volume d'énergie que nous consommons. C'est vrai pour les bâtiments publics. Nous intervenons, nous, sur le parc privé. Et je le répète, ce sont des aides privées. Ce sont des aides publiques, pardon, sur du domaine privé qui finalement qui donne de la valeur à votre logement une fois qu'il est retravaillé et qui vous permettra de le louer puisque bientôt vous ne pourrez plus louer les passoires énergétiques.
Donc
nous
luttons. Ça, c'est très intéressant.
Nous luttons contre les passoires énergétiques et moi je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, profitez-en. Ces aides, elles existent. C'est un budget de 4 milliards d'euros que nous avons voté en décembre à l'ANA pour aider nos compatriotes. Il faut les consommer.
Alors justement, comment on la demande cette aide si demain je veux l'utiliser ?
Alors vous allez sur la plateforme de l'ANA, de France Rénov aussi. France Rénov, c'est le service public de la rénovation énergétique.
Donc sur Internet ?
Sur Internet. Vous avez aussi un numéro de téléphone qui est le 0800 808 700. Et là, vous allez être orienté vers le bureau le plus proche de chez vous. Il y en a 550 en France, avec 2250 personnes qui sont là pour vous conseiller. C'est un tiers de confiance. On va vous dire quels sont les bons travaux à faire, les bons gestes, compte tenu de la nature de votre appartement, de votre maison, de sa date de construction. Et à l'issue de cet entretien, cet accompagnateur Rénov va vous accompagner à monter le dossier jusqu'au paiement de la prime de l'ANA à la fin des travaux.
Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Les propriétaires ne pourront plus louer si les travaux de rénovation énergétique n'ont pas été faits.
Absolument.
À partir de quand ?
C'est le cas déjà pour les appartements qui sont en G+, c'est-à-dire les plus énergivores. C'est le cas dès cette année. Et dans quelques années, vous ne pourrez plus les vendre non plus. Donc il faut intervenir massivement. Profitez-en.
Et là, la lettre que vous donnez, c'est celle qui dépend du classement DPE que l'on fait notamment pour louer ou vendre son logement. Merci beaucoup Thierry Repentin. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat. Et on renvoie vers votre site internet pour ceux qui voudraient davantage d'informations. Merci beaucoup.
Merci.
Dans une seconde, l'info revient à 12h30.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30. 7h30, Céline Landreau et Pascal Praud.
La grande édition de la mi-journée, Céline.
Avec cette paralysie, Gare de l'Est, à la suite d'un incendie volontaire sur des câbles électriques, la SNCF a porté plainte et n'est pas en mesure d'affirmer que le trafic pourra bien être rétabli demain. On en parlera longuement dans cette édition. À suivre aussi cette décision de la justice. Il n'y a pas de prescription dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, cette mère de famille tuée en 86. Soulagement pour ses proches et explication dès le début du journal. Les Français ne veulent pas de la réforme des retraites et soutiennent le mouvement social. Ce sont les indications de notre baromètre BVA. Les salariés des remontées mécaniques se mettent en grève à leur tour contre cette réforme. Est-ce que cela fera boule de neige? On en parlera dans une dizaine de minutes avec Arnaud Touche. À suivre aussi la situation en Ukraine et la corruption au plus haut sommet de l'État. Et puis du foot et un mois de février qui s'annonce très très chargé pour le PSG. Votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h suite de notre journée spéciale Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Nous serons avec Stéphane Boutsock qui reviendra sur le plus gros film français de l'année. Et puis c'est l'objet de notre question du jour sur notre site rtl.fr. Allez-vous tous les mois au cinéma?
Une question pour les auditeurs à partir de 13h. Une autre, celle-ci, faut-il poursuivre le rapatriement des femmes et enfants djihadistes détenus dans des camps en Syrie?
Alors qu'un nouveau rapatriement a eu lieu, on le rappelle ce matin. La météo, ce sera à la fin du journal avec vous, Peggy Broche, mais déjà un indice.
Encore bien gris et froid.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est un dossier vieux de 36 ans, mais la justice a tranché. Aujourd'hui, il n'est pas prescrit. On parle ici de la mort de Marie-Thérèse Bonfanti, cette mère de famille de 25 ans, mystérieusement disparue le 22 mai 86 à Pontcharrat, dans l'Isère. Un mystère levé en 2022, l'an dernier, donc, quand Yves Chatin a avoué le meurtre bien après le délai de prescription, qui était de 10 ans au moment des faits. La prescription qu'a essayé de faire jouer le meurtrier, mais la chambre d'instruction de Grenoble vient de trancher, Serge Peillot, elle n'a pas lieu d'être. Une victoire pour les proches de Marie-Thérèse.
Oui, Erika Bonfanti, âgée de 4 ans lorsque sa mère a disparu en 1986, a tout de suite dit son soulagement à la sortie de la salle d'audience.
Ah bah oui, complètement, j'arrive même pas à parler. Voilà, c'est une bonne étape pour nous, ça fait plaisir. Ça fait du bien de voir que la chambre d'instruction nous suit, ça fait du bien. Ça nous donne la possibilité de pouvoir aller plus loin et on espère un procès et pour pouvoir rendre la dignité à maman. Aujourd'hui, c'est une étape de gagner.
Alors, pour rejeter la demande de prescription du meurtrier présumé Yves Chatin, prescription qui était de 10 ans à l'époque des faits, les magistrats grenoblois ont effectué une analyse inédite dans ce type de dossier. Maître Bernard Boulou, avocat de la famille Bonfanti.
La chambre d'instruction a reconnu que le point de départ de la prescription, le curseur, devait être placé à compter du jour des aveux.
C'est-à-dire en 2022.
En mai 2022, le 9 mai 2022. Alors, soyons clairs, c'est une première. Aujourd'hui, c'est une décision, je le dis, qui fait honneur à la justice. On peut en être fiers. C'est une décision qui va être dans les annales de la procédure pénale.
Voilà, Yves Chatin peut encore contester devant la Cour de cassation cette décision. Il a 5 jours pour le faire.
Serge Peillot à Grenoble pour RTL, merci. Il avait voulu se faire justice lui-même. Le père de famille qui avait passé à tabac en octobre dernier avec 3 complices, un mineur isolé de 16 ans, sera jugé cet après-midi à Roanne. Il soupçonnait ce jeune d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Le mineur est lui toujours en détention provisoire. Il ne sera jugé que dans plusieurs mois puisque l'enquête se poursuit.
La SNCF, elle a porté plainte après l'incendie volontaire qui paralyse le trafic Gare de l'Est aujourd'hui à Paris.
Et le retour à la normale ne peut pas encore être garantie demain, d'après Clément Beaune, le ministre des Transports qui s'est rendu sur place. Tout cela, Guillaume Chiez, est dû à un acte de malveillance sur des câbles électriques cette nuit en Seine-et-Marne.
Oui, puisqu'il y a eu 2 départs de feu dans 2 coffrets abritant des câbles électriques, ce qui ne laisse aucun doute sur le côté volontaire de cet incendie. Les enquêteurs, dans leur première constatation, ont également noté que le portillon d'accès aux voies de la SNCF était ouvert sans aucune trace d'effraction. Alors, est-ce que le portillon n'avait pas été été refermé ou a-t-il été ouvert par une personne qui avait la clé? Il est évidemment beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un sabotage organisé ou d'une simple volonté de dégrader. C'est la PJ de Meaux qui est en charge des investigations. Les policiers sont à l'œuvre depuis ce matin pour faire tous les prélèvements sur place et également pour exploiter la vidéosurveillance qui est disponible dans un périmètre large autour de la commune de Vers-sur-Marne.
Merci beaucoup Guillaume Chaise du service police-justice d'RTL. Alors on le disait, pas sûr que le trafic puisse être rétabli demain. Les conséquences de cet acte de malveillance se font en tout cas déjà très fortement ressentir à la gare de Nancy, Samuel Goldschmidt.
Alors oui, depuis Nancy, il ne faut donc pas compter aller à Paris aujourd'hui, au moins cette nuit en tout cas en plus, éventuellement demain comme vous le disiez. Dans la gare, la plupart des voyageurs ont le nez entre leur portable et les panneaux d'affichage pour chercher des solutions.
Je devais prendre le train à midi pour aller à Bordeaux et je me retrouve sans train. Donc là, ils ont réussi à nous trouver un train qui part de Lorraine TGV jusqu'à Massy, Massy-Bordeaux. On va arriver à minuit au lieu de 19h. Mais contournement de Paris, ça va, apparemment. Mais au moins, ils nous ont retrouvé un train. Bah oui, on cherche des solutions, mais bon, ça va, ils sont réactifs. Et puis, quand ils peuvent nous replacer dans les trains, ils nous replacent.
Donc le blocage va durer pour les grandes lignes, les TGV. Pour les TER, certains pourront éventuellement aller de Nancy vers Reims ou Épernay, voire Château-Thierry dans l'Aisne, mais ce sera le terminus. Pour les TGV du Luxembourg et de Metz, là une solution a été trouvée pour les faire passer par un autre itinéraire et les faire arriver à la gare du Nord. Et puis depuis Nancy, vers Metz, le Luxembourg ou Strasbourg, le trafic est normal. De toute façon, la SNCF vous invite à consulter son application avant de vous rendre en gare.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt à Nancy, donc pour RTL.
Toujours pas convaincu par le gouvernement, les Français soutiennent le mouvement social contre la réforme des retraites.
À 68%, oui, selon l'Observatoire de la politique nationale BVA pour RTL. Près de 3 Français sur 4 estiment aussi que ce texte est injuste. Parmi les points de crispation, la question des femmes. Alors le gouvernement assure que leur sort sera meilleur grâce à cette réforme. Mais il a bien du mal à convaincre Thomas Després.
Oui, et pourtant Elisabeth Borne l'assurait hier encore hein, lors de ses vœux à la presse. Cette réforme est juste et le gouvernement a traqué les injustices dans les moindres détails. Mais les faits sont têtus et les arguments difficiles à réfuter. Selon l'étude d'impact commandée par le gouvernement, les femmes nées dans les années 70 et 80 devront bien travailler 4 mois de plus que les hommes pour obtenir leur retraite. Pas vraiment juste donc. Résultat depuis hier sur les plateaux, que ce soit Franck Riester, Stanislas Guérini ou Gabriel Attal, les ministres sortent un peu les rames.
Les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, elles sont évidemment un peu pénalisées. On n'en disconvient absolument pas.
Ça dépend ce qu'on veut dire par pénaliser.
Alors il y a une question aussi sur le cas des femmes.
J'assume que c'est une réforme qui demande des efforts aux Français.
Et aux Françaises,
globalement, travailler plus.
Et pour tenter de convaincre que les femmes ne sont pas totalement les oubliées de cette réforme, la majorité depuis ce matin met les bouchées doubles sur les boucles de militants. On rappelle l'élément de langage, l'amélioration de la pension est nettement plus marquée pour les femmes, peut-on lire. Même si un député de la majorité le reconnaît, c'est un angle mort qu'on n'avait pas vraiment vu venir.
Monsieur Riester qui avoue que les femmes sont un peu pénalisées, je ne suis pas sûr que ça arrange les bidons du gouvernement, quand je dis... Évidemment, les affaires du gouvernement.
On avait compris que ce n'était pas leur surnom. Thomas Després du service politique d'RTL. Et puis on reviendra sur cette contestation contre la réforme des retraites. Après le journal, on l'a dit, la grève touche désormais les remontées mécaniques des stations de ski. Un préavis est déposé pour la journée du 31 janvier. Qu'est-ce que cela va essaimer? Quel contour prendra notre hiver social? On en parle avec Arnaud Touche dans quelques minutes.
C'est un serpent de mer du débat public. La législation, la légalisation du cannabis, le Conseil économique, social et environnemental devraient se prononcer pour dans la journée.
Oui, cette instance, la troisième Assemblée constitutionnelle de la République, doit effectivement voter sur le sujet cet après-midi. Et sauf grande surprise, Nathan Bocard, elle donnera son feu vert.
Oui, car la commission qui a travaillé sur le sujet insiste, en matière de cannabis, le statu quo n'est plus possible. Elle estime que la politique répressive de l'État est coûteuse et ne porte pas ses fruits. La consommation augmente au point de faire des Français les plus gros consommateurs d'Europe. Et le trafic illégal, lui, continue de se développer. Alors partant de ce principe, le CESE propose propose donc une légalisation encadrée. Dans les grandes lignes, ça veut dire autoriser des petits agriculteurs à cultiver le cannabis, un cannabis bio de meilleure qualité, donc moins dangereux. Il serait distribué dans des points de vente dédiés, discrets, et qui servirait par ailleurs de lieu de prévention, car l'objectif, c'est certes d'assécher le trafic illégal, mais aussi d'utiliser l'argent récolté pour financer la prévention, la réduction des risques. Enfin, cette vente serait bien entendu interdite aux mineurs, et le CESE propose donc de concentrer toutes les forces de police et de justice contre les trafiquants qui continueraient de vendre aux mineurs.
Mais concrètement, Nathan, ça va changer quoi ce vote ?
Alors rien dans l'immédiat, puisque le CESE n'a qu'un rôle consultatif. L'idée, c'est juste d'apporter des informations, des propositions éclairées pour alimenter ensuite un débat national.
C'est bien d'avoir un conseiller économique, social et environnemental qui ne sert à rien.
Il ne sert pas à rien, il a apporté beaucoup de solutions et a fait une étude de la situation qui pourra servir au gouvernement éventuellement.
Vous l'avez convaincu là, je pense.
Oui, je pense que c'était très persuasif.
Merci Nathan.
RTL Midi.
15 femmes et 32 enfants ont été rapatriés des camps de prisonniers en Syrie.
Des proches de djihadistes qui étaient retenus dans un camp tenu par les Kurdes. Alors les femmes ont été immédiatement placées en détention. Les mineurs, eux, remis au service chargé de l'aide à l'enfance. En Ukraine, la guerre n'empêche pas la corruption, crise politique au plus haut sommet de l'État, avec des démissions en série ce matin, Bénédicte Tassar. Y compris chez les proches du président Volodymyr Zelensky, ils sont soupçonnés de s'être enrichis justement sur les équipements livrés à l'armée.
Oui, c'est le cas du vice-ministre de la Défense. Il aurait profité d'achats de provisions à destination des troupes, mais à prix gonflé. Auparavant, c'est l'un de ses collègues qui aurait reçu un pot de vin de 400 000 $ en ayant choisi une marque de générateurs électriques sans passer par le traditionnel appel d'offres. Il y a aussi le procureur général adjoint, Paris, parti en vacances en Espagne, dans la voiture d'un homme d'affaires, ou encore le chef adjoint du bureau de Zelensky, accusé d'avoir utilisé à ses fins personnelles un tout-terrain offert à l'armée par General Motors. Alors la corruption, ce n'est pas nouveau à Kiev. L'année dernière, l'Ukraine était encore au 122e rang sur 175 dans l'indice de perception de la corruption. C'est calculé par l'ONG Transparency International. Mais depuis 2014, la lutte s'organise. C'est qu'il faut absolument montrer patte blanche pour recevoir l'aide occidentale pour la reconstruction, mais aussi pour pouvoir continuer le processus de candidature à l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, l'a bien précisé. Les réformes anti-corruption doivent s'accélérer. Aujourd'hui, Zelensky veut prouver que le message est entendu.
Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL.
Après avoir brisé le rêve des joueurs de l'USPI de Cassel, quel joli nom pour un club de football hier soir. Le PSG prépare la suite et elle s'annonce musclée.
Avec un calendrier particulièrement chargé, oui, dans les semaines à venir. Le mois de février sera celui de tous les dangers, avec deux chocs, deux classiques contre l'OM, mais aussi un match contre le Bayern Munich pour la Saint-Valentin le 14 février, Nicolas Georgiou.
Oui, ça va s'accélérer, il y a des obstacles à franchir et ça va dessiner la saison parisienne, avec notamment ce OM-PSG en huitième de finale de Coupe de France. À six jours de défier le Bayern Munich en match aller, les moments de vérité approchent, l'entraîneur Christophe Galtier en a bien conscience.
Il faudra aller faire une grande performance au Stade Vélodrome pour passer. On va jouer à partir de la semaine prochaine tous les 3-4 jours. Pour gagner ce trophée-là, il faut battre tous les adversaires qui se présentent. C'est Marseille. Quand vous êtes au Paris Saint-Germain, vous avez l'ambition d'aller au bout. Il faudra éliminer Marseille au Stade Vélodrome dans un enchaînement de matchs évidemment difficile.
10 matchs, voire 11 suivant le parcours en coupe jusqu'au 8e de finale retour contre le Bayern début mars. Deux fois donc l'OM au programme, mais aussi Lille et Monaco. Entre autres, Galtier appelle à une reprise en main après les défaites à Lens et à Rennes en championnat. Elle doit arriver rapidement.
Nicolas Georgiou, merci beaucoup. La météo à présent, on vous retrouve comme promis Peggy Broche. Bah, c'est toujours l'hiver. Hein.
Et oui, c'est vrai que c'est bien gris et froid, en gros, pour résumer. Alors, ça reste gris sur une bonne moitié nord. On a du mal à se débarrasser des grisailles. Alors, peut-être que du côté de l'Aquitaine, ça ira mieux cet après-midi. Ça commence à se dégager un petit peu. C'est bien dans le sud-est. Ça, il n'y a pas de problème. On a un temps plutôt lumineux. En revanche, sur l'extrême sud-est, là, c'est perturbé. On a des orages en mer et des orages qui vont toucher également la Corse cet après-midi. Des averses avec du vent également. On a un vent de nord-est, donc un vent froid sur le littoral du Var également, le vent également du côté.
Il souffle,
ouais. L'OTAN et la Tramontane sont en baisse, mais ils sont encore sensibles. Et sur les Pyrénées orientales, ça reste un temps perturbé avec des averses et de la neige en montagne. Aussi sur les Alpes, attention au risque d'avalanche, tout ça sous des températures encore froides. Globalement, de 3 à 6 degrés jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup, Peggy.
Vous pourrez peut-être aller au sport d'hiver, mais vous resterez en bas des pistes. C'est possible. On va en parler dans une seconde. Les remontées mécaniques en grève avec Arnaud Touche. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Bien évidemment qu'on va inquiéter les vacanciers. Seulement le problème, c'est que soit on n'inquiète personne et à ce moment-là, on n'obtient rien. Soit à un moment donné, on inquiète un peu du monde. Alors les conséquences, ben, ça va être bien évidemment pour certaines stations où les salariés auront suivi le préavis, ben, des fermetures d'appareils, voire même la fermeture totale de la station.
Éric Becker, responsable national des remontées mécaniques chez Force Ouvrière, qui s'exprime alors que les sports d'hiver sont rattrapés à leur tour par la réforme des retraites, avec cette grève annoncée des personnels qui se mobiliseront le 31 janvier et qui font planer la menace de vacances d'hiver sans tire-fesses ni télésièges. Rebonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Alors bien sûr, tous les Français ne vont pas au ski, loin de là, mais cette grève pourrait avoir un impact sur l'économie des stations. Et au-delà, elle est une illustration de ce qui pourrait marquer cet hiver social.
Oui, car la CGT et FO Remontées Mécaniques protestent bien contre le projet de réforme des retraites, mais aussi contre la modification du régime d'assurance chômage des saisonniers. Alors, chez FO, le préavis il est bien illimité, c'est vrai, mais en réalité, beaucoup reprendront le travail après le 31 janvier. Ils ne veulent pas, en réalité, pénaliser et fragiliser les entreprises déjà en difficulté à la montagne. C'est ce qu'expliquait justement la personne qu'on a eue tout à l'heure au téléphone. Sur RTL.
Certains ont déjà annoncé d'ailleurs des actions.
Oui, ça c'est intéressant parce que par exemple la CGT Énergie, elle appelle à la grève le 31 janvier, comme la plupart des syndicats, mais aussi le 26 et le 27 janvier, donc ça c'est cette semaine, et aussi le 6, 7 et 8 février. Ces dates, elles vous rappellent quelque chose, j'imagine, parce qu'en fait, ce sont les mêmes que la CGT Pétrole. La CGT Pétrole, elle a annoncé la couleur dès le départ, elle a dit on va faire 3 journées d'action, une de 24 heures, une deuxième de 48 heures et une troisième de 72 heures. Alors pour l'énergie, les grèves, ça se matérialise par des baisses de tension, notamment dans le nucléaire, également sur les barrages, c'est-à-dire moins de production aussi dans les centrales nucléaires et au final sur le réseau, avec aussi des coupures de courant chez les députés, ou encore d'autres actions, c'est remettre le courant à pleine puissance pour les foyers précaires qui étaient débranchés en quelque sorte. Pour la CGT Pétrole, là c'est différent parce que le but c'est de stopper l'envoi de carburant en station. Alors 24 heures, c'était pas un problème, 48 heures, bon, c'est un peu plus difficile. Trois jours, là, il peut y avoir, effectivement, alors pas une pénurie, mais enfin, il peut y avoir une perturbation, évidemment, dans les stations essence. Et vous voyez qu'en réalité, la CGT, mais que ce soit dans toutes les branches, énergie, pétrole, eh ben, on a l'impression qu'ils vont aller tous vers ce 6, 7 et 8, et 8 février.
6 février, c'est d'ailleurs la date à laquelle le texte arrive au Parlement. Hein, ce n'est pas anodin. Arnaud, à la SNCF, les cheminots se réunissent aujourd'hui. Il faut s'attendre là aussi à des annonces de nouvelles dates de mobilisation ?
Ça, c'est certain. Alors, avant le 31, franchement, c'est peu probable. Le 31, bien sûr, les cheminots seront en grève, ça, ils l'ont annoncé. Alors, ensuite, on le saura, mais il n'est pas impossible, là encore, que la CGT cheminots se cale sur les dates du 6, 7 et 8 février. On en saura évidemment un peu plus cet après-midi. Les autres syndicats, par exemple, l'UNSA, la CFDT et Sudrail, se réunissent aussi en ce moment pour décider de la suite du mouvement après le 31. Là aussi, il faudra voir s'il y aura une unité syndicale ou non au niveau de la SNCF. Pour le moment, c'est le cas. Voyons si la CFDT et l'UNSA restent sur la même position que la CGT.
Merci beaucoup Arnaud, des syndicats qui seront sûrement contents de ce baromètre BVA qu'on vous révèle aujourd'hui. 68% des Français qui soutiennent aujourd'hui le mouvement social. Merci Arnaud Touche.
Bienvenue de l'Alpe d'Huez, il sera dans notre studio dans quelques instants. C'est une journée spéciale Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Stéphane Boutsock est attendu. A tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL midi aujourd'hui. Évidemment, Astérix.
Suite de notre journée spéciale consacrée au film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, attendu en salle dans 8 jours, le 1er février, avec RTL et surtout avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch pour incarner les deux Gaulois. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour tout le monde.
D'abord Stéphane, comment il est né ce projet ?
Alors en fait, si on remonte le temps, il faut aller jusqu'en 2016, donc ça ne nous rajeunit pas. À l'époque, le quatrième film vient de sortir, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Ça n'a pas très très bien marché. Et Anne Goscinny n'est pas tout à fait satisfaite et elle dit le prochain, on va tout changer, c'est-à-dire casting, réalisateur, etc. L'année suivante, il est décidé que ce ne sera pas l'adaptation d'une bande dessinée que l'on connaît toutes et tous, mais un scénario original. Et comme ça se passe à chaque fois, moi c'est ce que j'ai appris, j'ai trouvé ça fascinant, c'est que les éditions Albert René et Hachette, qui sont propriétaires de la marque Astérix, organisent en fait d'abord un casting de producteurs, dont tous les gros producteurs passent une sorte de grand oral, ils convainquent ou pas, et ensuite on fait la même chose avec un réalisateur. Celui qui a gagné en 2017, c'est Alain Attal, les productions du Trésor, qui est le producteur attitré de Guillaume Canet, et très logiquement, Guillaume Canet, d'abord comme réalisateur avant de penser de proposer jouer le rôle d'Astérix, a été choisi pour réaliser le film. Il a repris à sa main le scénario qui a été écrit par les garçons qui ont écrit Les Tuches, quand même. C'est le duo qui a écrit Les Tuches qui a écrit ces Astérix-là. Il était décidé, en effet, aventure inédite, originale, qui se passerait en Chine. Et à partir de là, tout s'est mis en place.
C'est le plus gros budget de l'année ?
On est autour de 65 millions d'euros. Ce qui est bien, c'est que l'argent se voit à l'écran. C'est-à-dire, non, mais c'est pas toujours le cas.
65
donc je précise.
Millions, lorsqu'on sait qu'un film aujourd'hui coûte 3-4 millions.
Alors les films moyens sur les budgets déjà conséquents, on est autour de 10-15 pour une grosse production française. Mais là, évidemment, les enjeux
c'est 5-6 fois plus quoi.
Sont colossaux. Mais c'est l'avantage d'Astérix, c'est que c'est ce qu'on appelle une franchise, donc une marque qui voyage au-delà de nos frontières. Donc le film, notamment en Europe, il y a des territoires très forts sur Astérix qui sont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, donc on est sûr que le film va se vendre. Après, évidemment, quand on est sur des sommes pareilles, j'imagine qu'en dessous de 5 millions d'entrées, ça sera un peu compliqué pour rentabiliser le film. Et puis, c'est ce que disait Guillaume Canet chez nous ce matin, c'est aussi un signal qu'on envoie aux producteurs, aux chaînes qui investissent beaucoup d'argent. Il faut que ça marche pour que d'autres gros projets comme ça, dont on a besoin, puissent se financer.
Vous le disiez, Stéphane, c'est pas le premier Astérix, c'est le cinquième au cinéma. Est-ce qu'il ressemble au précédent ?
Non, mais ça c'est plutôt une bonne chose, je trouve. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'ADN d'Astérix qui est des gags, de l'action, plein de personnages, mais la faute aurait été pour Guillaume Canet de vouloir imiter, si je puis dire, l'Astérix de Chabat qui restera la référence. Donc, l'Empire du Milieu, c'est pas une succession de vannes ou de gags ou d'anachronismes comme il y a souvent, et c'est ce qui fait aussi le sel et la richesse d'Astérix. Guillaume Canet, il a voulu faire un grand film d'aventure. Donc ça veut dire qu'il y a des combats, ça se passe évidemment en Chine, vous verrez les décors sont absolument, ils ont reconstitué notamment une rue de Shanghai dans des studios en région parisienne, c'est assez bluffant, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a de l'humour hein, je vous rassure, et puis le casting est là pour le faire, mais c'est en effet un film qui veut aller vers autre chose, c'est une comédie d'aventure au sens noble du terme, vraiment.
Et puis on avait adoré Clavier Depardieu, est-ce qu'on va aimer à la folie Canet-Lelouch ?
Mais vous savez, moi c'était aussi mon interrogation quand je suis allé voir le film, et je peux vous dire que la première scène du film, vous verrez ça, c'est en effet le duo, tout de suite. Gilles Lelouch Obélix, Guillaume Canet Astérix, et très honnêtement, après une minute, je ne me suis plus posé la question. J'accepte la proposition, d'abord parce que je trouve que Gilles Lelouch est parfait dans le rôle. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a cherché à joindre Gérard Depardieu. Il a fini par l'avoir. C'est Depardieu qui lui a passé un coup de fil et qui lui a dit « Je sais que tu vas faire Obélix. Vas-y, mon gars. Le seul conseil que je te donne, écoute bien, c'est que Obélix... c'est quelqu'un qui a des pâquerettes dans les yeux. Et il a raccroché. Et Lelouch s'est débrouillé avec ça, avec le scénario aussi, et il s'en sort très bien. Et Canet, bah oui, la moustache, les couettes, ça va pas à tout le monde. Bah lui, ça lui va très très bien. Je vous propose d'écouter un extrait, comme ça on va se mettre dans l'ambiance. Ça se passe au début du film. Écoutez les voix, parce qu'après on va parler du casting. Essayez peut-être de reconnaître au passage.
Et par Benos, mais pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous ?
Oh, un bras raccourcix, c'est notre tradition de porter secours à tous ceux qui en ont besoin.
Ça a souvent été oui, mais cette fois-ci c'est non. Je le sens pas, moi. Voilà, la Chine c'est loin, on n'y est jamais allé, nos pères non plus, on sait même pas où c'est d'ailleurs.
Mais si, quand même.
Si, même moi je sais où c'est. C'est du côté de là où le soleil se lève.
Ah, moi je suis d'accord. Puis en plus, j'ai rien en ce moment.
Et vous les deux, les chefs de village maintenant ?
Non mais attends, ça va pas bien, non ? C'est quoi cet accueil pour nos amis les Chinois ? Tu sais pourquoi ? Parce que c'est trop loin ? Enfin, qu'est-ce que ça peut te faire, c'est même pas toi qui y seras allé, hein. C'est Astérix et Obélix, comme d'habitude. Ah ça, je veux dire que si un jour il y a des imbéciles qui écrivent l'histoire de notre village, rassure-toi, ils n'appelleront jamais ça les aventures d'Abracourcix le Gaulois, hein. Parce que même Idéfix, il voyage plus que toi.
Attends, c'est Idéfix, Lolo.
Alors, bon, là, c'est le chien, on est d'accord, mais...
Audrey Lamy.
Audrey Lamy qui fait bonne mine, absolument. Pierre Richard qui fait le druide. Panoramix, Jérôme Commandeur qui fait le chef du village, Astérix, Obélix, évidemment, on l'a dit. Il y en a plein d'autres, hein. José Garcia, Vincent Cassel qui fait César, Marion Cotillard qui fait Cléopâtre.
Il y a tout le cinéma français.
Angèle, puis il y a des idées au-delà de ça. Oui, il y a tout le cinéma français.
Et il y a même Ibrahimovic.
Il y a Ibrahimovic.
Mais il a un petit rôle ?
Ah non, il a un vrai rôle. Il fait le bras armé de Jules César et il y a une énorme scène d'action avec, avec Zlatan, absolument.
Et Florian Manodou fait une silhouette, je crois.
Une apparition.
Je l'ai entendu ce matin dans la matinale.
Il a un tout petit rôle, vraiment une apparition, mais il y a aussi Angèle, il y a Big Flo et Oli, il y a toutes les générations.
C'est réussi.
Ah oui, vraiment.
Ça dure combien de temps ?
Ça dure moins de 2 heures, ce qui est plutôt bien dans, dans l'inflation actuelle des films. Et j'espère vraiment que ça va marcher pour qu'il y en ait d'autres, surtout.
Et vous parliez casting, il y a aussi Jonathan Cohen, Épi de Maïs, qui sera l'invité de Julien Cellier et de Stéphane Boutsock, vous le disiez. Alors, dans RTL Soir à partir de 18h. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci à vous, ça sort mercredi prochain.
Mercredi, quasiment à la veille des vacances. Merci Stéphane. Ben, on pourra parler d'Astérix et Obélix avec les auditeurs dans une seconde. On parlera forcément de la grève des retraites. À tout de suite.
RTL Midi.